Salut à toi, voyageur du quotidien. Je suis Laetitia Pirello-Parnot et tu es sur le point d'embarquer dans une exploration de soi, une quête de l'authenticité affirmée et de l'efficacité sereine. Ici, on ne fait pas que rêver grand, on donne vie à ses rêves. Alors installe-toi, respire tranquillement et plongeons ensemble dans le podcast du jour. Hello à toi. Tu vois ces soirées pyjama où on parle de tout et de rien jusqu'à l'aube et où tu apprends plein de choses? Eh bien, on est à nouveau ensemble pour ce genre de moment. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une peur qu'on connaît toutes. Cette peur sourde qui s'insinue quand on pense à nos finances. On s'est toutes plus ou moins demandé à un moment si on avait bien géré ou comment mieux gérer notre argent, non? Mais bon, posons-nous et plongeons-nous dans ce sujet parfois épineux ensemble. On va commencer par reconnaître la peur. Mais d'abord, comment on définit cette peur de manquer? Tu sais, cette sensation que peu importe ce que tu fais, il n'y aura jamais assez. C'est une peur ancestrale, profondément ancrée en nous. On a toutes ce petit diable sur l'épaule qui nous murmure que peu importe nos efforts, ce sera jamais suffisant. Et si on prenait le temps de l'écouter, de comprendre ses inquiétudes, pourquoi il a peur comme ça? Ça vient d'où tout ça? Bon, ça peut prendre du temps, mais ça peut être intéressant de prendre le temps quand même de l'écouter, de voir de... Tiens, c'est quoi là, sa petite croyance limitante, sa peur, là, le petit contenu précis? Et tu peux les noter, évidemment. Donc, c'est comme si tu avais un verre percé, et peu importe la quantité d'eau que tu y mets, c'est cette sensation qu'il finit toujours par se vider. Ou encore, comme ce panier en osier qu'on aimait tant, mais qui avait un trou. On le remplissait de cerises, mais il en perdait la moitié en chemin. La peur, c'est un peu ça. Elle nous fait voir le trou dans le panier et non les cerises qu'on a réussi à ramener. Cette angoisse peut laisser place à une meilleure maîtrise, à un rapport plus serein à toi, ton environnement et ton argent. Et d'où vient cette peur de manquer? Ah, la peur de manquer, elle a des racines profondes, ancrées, à la fois dans nos histoires individuelles et dans nos évolutions en tant qu'espèce. Allons-y ensemble comme si on remontait le temps pour comprendre d'où elle provient. Premièrement, de nos ancêtres et de la question de la survie. Imagine, il y a des milliers d'années, nos ancêtres vivaient dans un monde plein de dangers. Trouver de la nourriture n'était pas aussi simple que d'ouvrir un frigo ou d'aller au supermarché. Ils devaient chasser, cueillir, et les périodes de famine étaient courantes. Dans ce contexte, ceux qui avaient une tendance à stocker de la nourriture ou d'autres ressources essentielles avaient plus de chances de survie. Cet instinct de précaution est donc encodé dans nos gènes. Deuxièmement, l'éducation et la socialisation. Si on remonte à notre propre enfance, notre relation avec l'abondance ou le manque dépend souvent de la manière dont nous avons été élevés. Les parents qui ont connu la guerre, par exemple, ou les grands-parents, la pauvreté ou d'autres formes de privation peuvent, sans le vouloir, transmettre cette peur à leurs enfants. Mange tout dans ton assiette, pense à ceux qui n'ont rien, ne gaspille pas, mais tu vas nous finir ça quand même. Ce sont des phrases que beaucoup d'entre nous ont entendues. Et ça joue. Troisièmement, société de consommation. Aujourd'hui, nous sommes bombardés de publicités et de messages qui nous poussent à consommer toujours plus. La société nous dicte constamment ce dont nous avons besoin, entre guillemets, pour être heureux, pour réussir, pour être aimé. Et cette pression constante peut nous faire sentir que nous n'avons jamais assez, renforçant cette peur de manquer. On a aussi la question de la comparaison sociale. Avec les réseaux sociaux, par exemple, il est facile de se comparer aux autres et de sentir que tout le monde a quelque chose que nous n'avons pas. Que ce soit une carrière réussie, une belle maison, un voyage exotique, cette constante comparaison peut nourrir un sentiment de manque, plutôt que d'être là et se dire dans la gratitude « mais hey, j'ai quand même tout ça aujourd'hui dans ma vie ». Et même si à la limite, il y a des choses qui nous manquent, ok, on peut peut-être les mettre en place, pouvoir les créer dans notre quotidien, mais sur le moment, on a souvent tendance à voir ce qu'on n'a pas plutôt que de pouvoir être satisfait de ce qu'on a déjà. Et après, on peut essayer d'obtenir quelque chose qu'on n'a pas, mais ce n'est pas dans l'esprit du manque qu'on va plus facilement y parvenir. La dernière raison pour laquelle on peut avoir cette fameuse peur du manque, c'est la question des incertitudes de la vie moderne. Nous vivons dans un monde plein d'incertitudes. Oui, on n'a peut-être pas les mêmes dangers qu'à l'époque de la préhistoire, mais on a quand même d'une certaine manière des dangers symboliques, etc., des incertitudes, le contexte où on s'est véhiculé en plus avec les médias hein, qui nous le montrent, mais on va avoir les crises économiques, les instabilités politiques, les changements climatiques. Moi, je vois, j'ai de plus en plus de personnes qui me parlent de l'éco-anxiété et qui est réellement beaucoup plus présente chez les personnes au niveau de leur ressenti. Toutes ces préoccupations peuvent augmenter notre peur de ne pas avoir assez à l'avenir aussi. En fin de compte, comprendre d'où vient cette peur peut nous aider à la combattre. Reconnaître que nous vivons dans un monde d'abondance, pratiquer la gratitude pour ce que nous avons déjà et être conscient de nos véritables besoins plutôt que de nos désirs influencés par la société sont autant de pas vers la libération de cette peur ancestrale. On va voir maintenant les conséquences de cette peur de manquer et les manifestations insidieuses souvent de celle-ci. Donc ça peut passer des achats impulsifs, à l'endettement, le stress constant de fin ou de début de mois d'ailleurs. La peur de manquer, ça peut nous coûter cher, aussi bien financièrement qu'émotionnellement. L'achat de cette robe qu'on portera jamais, cette paire de chaussures, alors qu'on en a déjà 10 paires, à moins qu'on adore ça, hein, voilà, mais ça peut aussi être une question d'accumulation. Tout ça parce qu'une offre était trop tentante, parce que c'était une promo, parce que on ne les reverra jamais. Je le dis comme ça, mais c'est souvent ce genre de raisonnement qu'on a dans ces cas-là. La peur, elle nous pousse souvent à agir sans réfléchir. Et d'ailleurs, en plus, souvent le marketing est aussi, pour certains d'entre eux, pas tous, il y a une part plus éthique, mais peut être aussi, peut activer les émotions en fait, et donc nous faire acheter dans des moments d'émotion. On le voit avec les publicités, et voilà, hein, comme on le voit, que la question de cerveau disponible pour l'achat, comme on l'a vu sur une chaîne de télé. Donc la peur de manquer, aussi connue sous le terme FOMO, Fear of Missing Out, dans sa forme contemporaine, se manifeste de différentes manières et peut avoir un impact sérieux sur notre bien-être et nos décisions de vie. Donc, on va rentrer un petit peu justement dans le vif du sujet et voir quelles sont les manifestations de la peur de manquer. Donc, première, ça peut être tout ce qui est de l'ordre de l'accumulation excessive. Certaines personnes achètent en excès, stockent ou ne jettent jamais rien, de peur de regretter plus tard ou de manquer de quelque chose. On peut penser à ces armoires pleines de vêtements qui ont parfois encore des étiquettes, qui n'ont jamais été portées. Ces greniers remplis d'objets au cas où. Pas que dans les greniers d'ailleurs, voilà, mais les fameux au cas où. On a aussi une autre manifestation, c'est le surengagement. Tu sais, quand il y a par exemple une amie qui dit oui à tout et qui à la fin se retrouve complètement submergée par 1000 projets, sorties et activités. Parce qu'elle n'a pas osé dire non, parce qu'elle s'est dit tiens, ça pourrait être bien, ça, plus ça, plus ça. Et en fait, ça fait trop. Et elle pourrait craindre de passer à côté d'une opportunité ou d'un moment mémorable, ce qui fait qu'elle a tendance à se surengager, au-delà de ce qu'elle peut faire, en fait, et que son temps lui permet d'ailleurs, et son énergie. Question des addictions, aux réseaux sociaux, notamment. La peur de manquer donc une info, un FOMO, une tendance. Un événement, voilà, quand on a peur de passer à côté de ça. Certains actualisent constamment leur flux pour rester, entre guillemets, dans le coup. Ou de se dire, mince, il faut que je partage tous les jours, il faut absolument que je sois présent de telle manière. Mince, je vais passer à côté de telle info si je n'y vais pas tous les jours. Donc on voit bien qu'il y a même souvent de l'addiction et, on va passer à l'autre point, de l'anxiété. Et ça, l'anxiété, c'est aussi une des manifestations de la peur de manquer. Des sentiments d'insatisfaction chronique, d'inquiétude concernant le futur, ou d'être en permanence à la traîne par rapport aux autres. Et le dernier point sur lequel on va parler ensemble, dernière manifestation, la prise de décision hâtive. On l'a vu, hein, avec l'émotion et tout, on peut vite arriver à prendre une décision hâtive sans trop réfléchir, par crainte de rater une occasion. Justement, il y a certaines personnes dans ces cas-là qui peuvent sauter sur des opportunités sans réfléchir aux conséquences ou à la pertinence pour elles, qui peuvent se retrouver à payer beaucoup, à prendre un truc dont elles n'ont finalement pas besoin. Bon, voilà, une erreur, ça peut arriver, mais parfois, ça va être des erreurs qui peuvent être aussi assez chères, quoi. Voilà, donc avec un prix assez élevé. Que ce soit financier ou même émotionnel, comme je disais tout à l'heure. Et que ça peut amener des risques en plus, tout ça. C'est-à-dire que là, c'est les manifestations, mais on va voir aussi quels peuvent être les risques liés à cette peur. Le premier risque, c'est l'endettement. Le fait d'acheter sans cesse par peur de manquer peut conduire à des situations financières délicates. Ça, c'est quand même généralement pas très agréable. Ensuite, on a l'épuisement. parce que s'engager dans trop d'activités ou de projets, ça peut mener à de la fatigue, voire même à force. Si on dit oui à tout, ça peut amener aussi à du burn-out, par exemple. Voilà, on le voit au travail et même dans d'autres cas de figure. Les relations aussi superficielles. Pourquoi? Parce que si on privilégie la quantité à la qualité en termes de relations, on peut passer à côté de connexions plus profondes et significatives. Donc finalement, bah, pourquoi pas voir du monde, mais aussi aller approfondir des relations plus pour la qualité de ces dernières. Donc ça aussi, la peur de manquer peut faire qu'on vit plutôt des relations aussi superficielles. On va avoir aussi la baisse de l'estime de soi, mais tout ça c'est relié en réalité. Et quand la personne se retrouve en endettement, épuisée avec des relations superficielles et tout le reste, avec cette peur-là, oui, la baisse de l'estime de soi, elle est évidente. Et d'ailleurs, c'est un cercle vicieux. À force d'avoir une baisse d'estime de soi, on a tendance aussi à avoir plus de mal à savoir ce qu'on veut et aller vers des relations, par exemple, de qualité. Donc cette constante comparaison avec les autres, cette sensation de ne jamais avoir ou faire assez, peut sérieusement éroder la confiance en soi et en fond, bien sûr, puisque c'est en amont, l'estime de soi. Et entre autres, on a aussi le fait de passer à côté de l'instant présent. Être constamment préoccupé par ce qu'on pourrait rater nous empêche de savourer ce que nous vivons là, maintenant. Donc ça aussi, c'est quand même un risque non négligeable de pas vivre l'instant présent de façon répétée, quoi. Et enfin, bah, la question des décisions qui peuvent être regrettables pour les personnes. Le fait de sauter sur chaque opportunité par peur de manquer, bah, ça peut mener à des choix qui ne correspondent pas vraiment, donc, comme je disais, à nos désirs, à nos besoins profonds. Voilà, donc en somme, la peur de manquer, si elle n'est pas reconnue et gérée, ça peut vraiment mettre des bâtons dans les roues de notre quête de bonheur et d'épanouissement. Mais comme toujours, reconnaître le problème, c'est la première étape vers sa résolution. Autant en parler, autant voir comment elle fonctionne et voilà, qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution. Donc voilà, donc si je reviens sur ce qui fait qu'on se retrouve dans cette peur de manquer, bah, justement, bah, on a vu, hein, il y avait effectivement aussi la question de l'instinct de survie. Si on part donc de Maslow et de sa pyramide, hein, des besoins, vous la trouverez au cas où sur Internet, hein, Maslow, Maslow, et ben celle qui reprend l'ensemble des besoins humains, en fait, cette peur est là, enracinée, nous rappelant nos besoins fondamentaux de sécurité, en fait. Voilà, c'est en lien avec la partie donc de la sécurité. Ici, bah, déjà matériel, mais finalement, il y a souvent pas que les aspects matériels derrière tout ça. Ça peut toucher à des peurs, des besoins plus profonds et ambivalents. Et c'est tout à fait humain de ressentir ça. Voilà, parce que c'est lié à notre instinct de survie. Et les achats impulsifs, bah, en fait, si je reviens sur ce point-là, bah, c'est en gros souvent une réponse à l'émotion. Et d'ailleurs, il paraît qu'il y a une étude en fait de l'American Journal of Psychiatry qui dit que les achats compulsifs sont parfois une réponse à des insécurités émotionnelles. On le voit sur la nourriture aussi d'ailleurs, hein, voilà, donc tout ce qui est compulsif, impulsif, compulsion. Donc voilà, c'est dingue, mais c'est comme ça. C'est assez fréquent finalement. Et c'est comme si tu mangeais, bah, voilà, une tonne de chocolat ou de glace. Bah, comme on le voit dans Bridget Jones, hein, après une rupture, bah, c'est comme un pansement sur une blessure. Mais ça ne soigne pas vraiment le fond du problème. On va voir ensemble maintenant bah, les petits trucs et astuces qui nous permettent de dompter cette peur, qui permettent aussi donc d'avoir un. Voilà, qui sont aussi les bases d'un budget plus serein. La première, c'est de faire face à la réalité, tout simplement. Genre, voilà, c'est la première chose, c'est-à-dire que d'arrêter de faire l'autruche, d'être dans le déni. Des fois, ça fait pas, voilà, ça fait pas plaisir, mais il vaut mieux faire face à la réalité telle qu'elle est, d'être lucide. Tu connais bah, mon amour pour les livres, dans l'art de l'essentiel de Dominique Leroy, l'auteur parle de vivre simplement. Bah, pareil pour le budget, il faut savoir où on met les pieds et éliminer le superflu pour revenir justement à l'essentiel. Et dans l'essentiel, il peut y avoir de l'essentiel qui fait du bien, qui peut paraître superflu mais qui ne l'est pas pour toi. Juste prendre le temps de voir si on en a vraiment besoin, si cela nous fait vraiment du bien, si ça rentre dans notre équilibre à la fois financier et émotionnel. Et avant de pouvoir nager, en fait, bah, faut se mouiller. Et pareil pour ton budget. Donc, ouvre bah, les relevés, regarde là où tu en es, et même ce que tu redoutes. Et derrière ces chiffres, bah, en fait, oui, il y a des informations. Il y a là où tu en es aujourd'hui, histoire bah, justement de voir ce qu'il faut améliorer. Et il y a aussi ton histoire, tes choix de vie. Et c'est le moment de comprendre tout ça. Voilà, c'est ok, peut-être on n'est pas fier, peut-être qu'on se dit, bah, à un moment donné, j'ai voilà, j'ai pas fait les choses comme j'aurais voulu, mais au moins tu vas pouvoir comprendre bah, pourquoi tu en es arrivé là. Voilà, parce que bah, je t'ai parlé de la peur de manquer, mais il y a sûrement des raisons qui font qu'aujourd'hui, tu en es là où tu en es avec l'argent, que ça fonctionne ou pas d'ailleurs. Hein. Donc, commencer par le commencement, c'est ça. Donc là, on a vu qu'il fallait pouvoir mettre le nez dedans, voilà. Et là, maintenant, ça va être le fait de prendre conscience. Oui, ça implique d'ouvrir les relevés, par exemple, que tu évites depuis des semaines, et de regarder où va ton argent. Tu poses tout ça, tu écris tout ça même dans un tableau. Ça existe, tu peux les trouver. Et puis au cas où, tu te le fais tout seul, si voilà, tu notes les rentrées, les sorties. Tu peux le faire par pôle, voilà, si c'est de l'essentiel, du prioritaire ou pas. Prends le temps, tu notes tout ça, au moins tu vas y voir plus clair. Et comme ça, tu vas voir où va ton argent. C'est par exemple le cas d'une personne qui, après avoir fait ses comptes, a réalisé qu'elle dépensait quasiment 100 euros de café par mois. Donc, elle s'est dit, bon, c'est peut-être beaucoup au final. J'ai peut-être pas spécialement envie de dépenser 100 euros en café. Mais elle s'en rendait pas compte parce que tous les jours, tous les jours, tous les jours, elle en dépensait plusieurs. Et puis, à un moment donné, elle en arrivait à ce montant. Mais ça peut être ça pour... voilà, moi, je l'ai entendu pour des gens pour tout ce qui est cigarettes. Ça peut être pour des petits trucs du quotidien et on ne voit pas. Et à un moment donné, voilà, ça peut faire une somme qui pourrait être utilisée pour autre chose qui te ferait plus plaisir. Mais maintenant, à toi de voir, hein, c'est quoi tes priorités. Ensuite, donc épargner avant de dépenser. Ça, c'est aussi une autre clé. C'est-à-dire que plutôt que d'épargner ce qui reste après avoir dépensé, ben, pourquoi ne pas dépenser ce qui reste après avoir épargné? En fait, souvent, on s'y prend à l'envers. On dépense et on essaye de... On se dit, tiens, j'épargne, mais il n'y a plus rien. Ou alors, il n'y a plus grand-chose. Et souvent, on dit qu'il faut essayer de se réserver un bon pourcentage au départ pour épargner. Et après, tu verras, il n'y a pas que l'épargne, parce que l'épargne, c'est un des... Voilà, c'est une des étapes, mais il y en a d'autres. Et en fait, tu vois, ça va te permettre aussi d'être beaucoup plus sereine, en fait, de pouvoir vraiment être plus tranquille d'esprit, parce que tu as de l'argent de côté. Mais bon, si au début, ce n'est pas le cas, commence même par 10 euros. 5 euros, 10 euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros, voilà. Et quand tu pourras, tu feras plus. Mais au moins un truc régulier. Et si tu as arrêté, reprends. Voilà. Une petite somme. Et puis tu peux essayer de penser aussi à épargner avant de dépenser, dans la mesure où voilà, tu peux le mettre en place. Surtout après avoir vu justement dans quoi tu mettais ton argent. C'est comme préparer un gâteau. Tu mets de côté on va dire certains ingrédients pour ton dessert principal et tu utilises ce qui reste pour un petit extra. Voilà, tu n'es pas obligé de tout utiliser, tu peux en garder une partie pour autre chose. Donc chaque euro mis de côté, c'est comme une petite bulle d'oxygène, hein. Au début, ça paraît dérisoire, et avec le temps, ces bulles forment une bouffée d'air frais. Ça détend, voilà. Et on peut penser à autre chose. Sinon, c'est toujours un peu en fond, quoi, en toile de fond, ça crée une charge mentale, encore une fois, de devoir se dire, mince, là, je suis ricrac, je joue avec le feu, comment je vais faire, oh, j'en ai marre, je peux rien, je peux pas me faire plaisir, voilà. Donc, c'est pas facile parfois. On peut avoir cette sensation que c'est pas facile, et c'est pas toujours évident. Mais à un moment donné, même si c'est un peu, bah, ça sera déjà ça à un moment donné que tu pourras avoir de côté et qui va te rassurer. Et ensuite, pourquoi pas utiliser une partie pour d'autres projets. Mais voilà. Donc, l'autre point important aussi, c'est la question de répartir ses dépenses. Créer différentes pochettes. Donc, tu peux le faire. Il y en a, ils le font même sous forme d'enveloppe, hein, mais tu peux le faire aussi. Au moins en te prévoyant on va dire, les sommes pour chaque domaine. Et là, tu peux comment dire, les différencier en fonction des loisirs, des urgences, des dépenses fixes. Bien sûr, en priorité, tu mets les dépenses fixes. Et après, bah, voilà, et tu respectes ce que tu as prévu comme budget. Tu essayes de rester dans ce budget. D'accord? Voilà, comme par exemple, moi je vois une personne qui a utilisé différentes enveloppes pour chaque catégorie donc de dépenses. Et une fois l'enveloppe vide, elle sait qu'il faut attendre le mois suivant pour pouvoir réutiliser de l'argent. En tout cas, pour tout ce qui est plus secondaire. Le reste, voilà, faut connaître aussi ses dépenses fixes pour savoir combien mettre exactement. Donc là, je dis ça dans l'ordre. Hein, voilà. D'ailleurs, c'est Dave Ramsey qui a écrit le livre The Total Money Makeover qui parle de ça. En fait, il suggère des enveloppes pour chaque dépense. C'est simple, mais ça peut faire le travail. À toi de voir la méthode, bien sûr, que tu préfères et qui fonctionne le mieux pour toi. D'ailleurs, il y a une autre méthode hein, dont je vais te parler dans un instant que tu peux regarder. Hein, il y en a plusieurs qui existent. Ou même des méthodes, tu peux en utiliser plusieurs hein, si elles se potentialisent, voilà, si elles se complètent et qu'elles potentialisent les résultats, tout en te permettant d'y gagner en retour, que ce soit en argent ou en diminuant ta charge mentale. Voilà, tu peux vraiment utiliser tout ça petit à petit, tu mets en place certaines habitudes. Et la dernière méthode dont je vais te parler, elle n'est pas très connue, et c'est celle d'Elizabeth Warren. C'est un peu une légende dans le domaine du budget. Et en fait, elle nous parle de la méthode 50-30-20. C'est un peu le yin et yang du budget. Et elle nous donne une recette qui est relativement simple. En fait, c'est que elle dit que ce qui est intéressant, c'est d'avoir 50% pour les besoins, 30% pour les désirs et 20% pour l'épargne. C'est presque poétique, en tout cas c'est plutôt mathématique. Et ce qui peut être intéressant, après à toi de voir quelle est la proportion. En tout cas, c'est la répartition qu'elle a vue intéressante de proposer. On va voir maintenant, en gros, comment on peut continuer d'adopter effectivement cette attitude saine envers l'argent. Donc déjà, ce qu'on disait tout à l'heure. On va voir maintenant comment adopter une attitude saine envers l'argent. Donc déjà, premièrement, c'est de se concentrer sur ce que tu as, pas sur ce que tu n'as pas. Voilà, donc plutôt sur ce que tu as. Donc ça peut être cette histoire effectivement aussi de gratitude, hein, pas sur le manque. Donc l'argent, c'est comme de l'énergie, il va, il vient. Et c'est notre attitude envers lui qui détermine s'il nous nourrit ou s'il nous épuise. C'est plus un outil, c'est plus neutre à la base. C'est vraiment comment on le perçoit qui fait qu'à un moment donné, on va pouvoir l'utiliser de façon saine ou pas dans notre quotidien. On va avoir aussi la question du minimalisme, hein, et c'est pas que pour les placards, hein, parce que souvent, justement, Marie Kondo, une des déesses du rangement, est connue pour ça. Mais en fait, tu peux appliquer cette question du minimalisme aussi sur tes finances. Et ça peut être, pourquoi pas appliquer le concept de « est-ce que ça me met en joie ?» à ton argent. Et ça peut marcher dans ce domaine, vraiment. La simplicité, ça peut être ton allié, comme dans ta garde-robe, dans ton budget. Il y a des choses dont tu n'as pas forcément plus besoin que ça. Et si tu fais un tri pour voir que l'essentiel pour toi, ce qui te rend vraiment heureuse ou pas, et là, tu vas pouvoir faire des choix assez intéressants. Et ça peut être une façon aussi de voir ce qui est essentiel pour toi. Et ça peut venir te faire réfléchir aussi par rapport à certains achats. T'as aussi le fait de dire non, qui peut, en fait, dire non, parfois, c'est dire oui à son futur. On a l'expérience qui a été faite sur le marshmallow avec donc Walter Michel, c'est un psychologue. Hein, et en fait, à un moment donné, il montre comment résister à une petite récompense peu immédiate, hein, peut présager de notre réussite future. C'est une expérience qui est assez connue, qui a été exposée, qui est assez intéressante. En fait, devant chaque enfant, il posait un marshmallow et il proposait une sorte de deal, quoi, plutôt tentant, et où il pouvait en fait manger le marshmallow tout de suite, ou s'ils attendaient 15 minutes sans craquer, ils en avaient un deuxième en récompense. Le véritable enjeu, c'est quoi? C'est de mesurer les capacités des enfants à différer leur gratification. Mais le truc encore plus dingue, c'est-à-dire qu'ils ont le droit de le prendre hein, s'ils veulent, mais juste temporiser. Et s'ils peuvent patienter, se dire ok, je peux en avoir un deuxième, là c'est ce qu'on va voir justement, ils peuvent attendre. Et il y en a, ils vont avoir du mal à attendre et ils vont le prendre tout de suite. Voilà. Donc ça a été. Ce qui est intéressant aussi, c'est que des années plus tard, en fait, ils se sont rendus compte que les enfants qui avaient attendu et qui avaient obtenu donc les deux marshmallows avaient plus de signes de réussite dans leur vie. En tout cas, voilà ce qu'on peut y entendre en général pour ce qui est de la réussite, que ce soit sur le plan académique, social et même, ils l'ont vu au niveau de la santé, il y avait des résultats plus positifs. La patience et la maîtrise de soi, en tout cas, sache-le, ce sont des super pouvoirs pour notre futur. Et l'avantage, c'est qu'elles s'acquièrent. Alors, la prochaine fois que tu dois faire un choix, pense à ces marshmallows et demande-toi, est-ce que tu veux savourer maintenant ou avoir une double portion plus tard? Voilà. En tout cas, c'est vraiment l'idée de est-ce que je préfère utiliser tout tout de suite ou pourquoi pas par exemple mettre de côté ou l'investir aujourd'hui dans quelque chose qui peut m'apporter pour plus tard et là, ça pourra m'apporter davantage. C'est un peu comme une multiplication plutôt qu'une simple addition. Pour l'argent, ça fonctionne ainsi également. Dire non à une dépense, c'est parfois dire oui à un projet futur, à un rêve. Autre attitude qui va t'aider justement à avoir une meilleure relation plus saine avec l'argent, c'est d'investir en toi. C'est Jim Rohn qui disait « Investis plus en toi-même que dans ton job. Au final, c'est toi ton plus grand atout. Et après, cela bénéficie à tous les domaines de ta vie. C'est un cercle vertueux en fait. Alors autant commencer et voir comment poursuivre dans cette voie. Ça peut être une formation, un atelier, des séances de coaching, de psychothérapie. Parfois c'est un livre, un podcast ou même une conversation enrichissante. Comme Emma Watson qui investit une grande partie de son temps et de son argent dans son éducation et son développement personnel et qui est loin d'être la seule à le faire et à évoluer dans son métier tout comme sa vie, bah, comme tous ceux qui s'y lancent. L'argent dépensé pour toi, pour apprendre, grandir, c'est comme arroser une plante. Ça semble coûter de l'eau, mais au final, tu obtiens une floraison magnifique. T'as aussi une autre attitude qui est intéressante, c'est la gratitude. Et pas que pour la méditation, hein, pour l'argent aussi, ça peut avoir de l'impact positif. Martin Seligman, c'est un grand monsieur de la psychologie positive, hein, voilà, il a beaucoup apporté. Il dit que la gratitude nous booste. Alors, merci à ce café offert ce matin, à ses chaussures en solde. Quand tu achètes, quand tu vis une expérience, y compris gratuite, apprends à savourer le bonheur de le vivre. Et même, parfois, pour des moments plus compliqués, qui t'ont appris une leçon clé de la vie. La gratitude fait une grande et belle différence. En psychologie positive, d'ailleurs, on a vu qu'elle faisait partie des compétences qui faisaient que les gens se sentaient plus heureux et parvenaient mieux, associés malgré tout à une capacité d'évolution progressive, à avancer dans leur chemin de vie. On reste plus motivé sur la durée en se sentant heureux et fier du chemin parcouru. Alors les sentiments dits négatifs, oui, ça fait avancer, hein, mais il faut aussi savoir les transformer en actions constructives pour qu'elles soient et restent motivantes. Chaque jour, trouve trois choses financières pour lesquelles tu es reconnaissant. Tu peux aussi le faire hors finance. Mais là, en l'occurrence, ça peut être intéressant déjà de voir pour l'argent, parce que c'est le sujet du jour. Et ça pourrait être aussi simple qu'un café offert par un ami. Hein. Ça peut vraiment être un petit truc. Ça peut être financier, ça peut même être quelque chose qui n'est pas financier. Ou en tout cas, quelque chose voilà, qui t'a fait vraiment plaisir, dans lequel tu peux mettre de la gratitude. Voilà. L'argent, c'est comme la pluie. Parfois, c'est une averse. Parfois, c'est une petite bruine. Mais chaque goutte compte et nourrit le sol de nos vies et de nos ressources matérielles. Plutôt que de se focaliser sur ce qui manque, imagine si chaque soir, tu comptais tes petites victoires, bah, quelles qu'elles soient, et aussi financières. D'ailleurs, il y a cette histoire de Jim Carrey qui s'était fait un énorme chèque pour entraîner son cerveau à se sentir capable de recevoir ce type de montant. Et ça a bien marché. En tout cas, souvent, il en parle. Alors, il a aussi bossé intelligemment, c'est sûr. Mais la croyance, ça joue énormément sur ce qui se produit au final. Si on se dit, bah ouais, je peux très bien le recevoir et je travaille pour, bah en fait, ça va encore mieux fonctionner. Même si c'est juste le fait d'avoir su temporiser ou d'avoir pu renoncer à un achat impulsif, tu peux ressentir de la gratitude, de la fierté pour ce que tu as su gérer. Et si ça n'a pas été le moment, voilà, c'est pas grave, souviens-toi que c'est possible et que rien que d'être là à écouter ce qui peut te permettre de comprendre et améliorer tout ça, c'est déjà un pas dans cette belle transformation. Voilà, on est arrivé au bout de notre petite introspection financière. Je t'assure, on pourrait en faire une série Netflix. Si ces trucs et astuces t'ont plu, dis-le-moi. La prochaine fois, prépare-toi pour 6 astuces basées sur les lois d'efficacité les plus puissantes. Crois-moi, ça va être du lourd. Et tout ça en apprenant à le vivre avec intelligence et sérénité. D'ici là, garde la pêche et embrasse ta tirelire pour moi. À très vite pour le prochain podcast. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à revenir, à partager, à mettre 5 étoiles et à ajouter un commentaire. Ton retour est précieux. Il me permet d'avancer avec toi et de partager ce mindset d'épanouissement à de plus en plus de personnes autour de toi. Donc fais de tes peurs des portes de connaissances pour une réalité plus savoureuse et n'oublie pas de vivre libre et rêver grand. Voilà, c'est déjà la fin de notre aventure d'aujourd'hui. N'oublie jamais que chaque jour est une nouvelle opportunité pour grandir, pour briller, pour être toi, encore plus assumé, à l'aise dans chaque situation et sereine. J'espère que tu as emmagasiné un peu de magie pour ton quotidien. Alors, garde cette énergie, propage-la autour de toi et surtout, reviens-nous très vite pour un nouveau voyage ensemble. À très bientôt et n'oublie pas, reste audacieuse, reste vraie et surtout, reste toi. À très bientôt pour un nouveau podcast.